ce shiur dédié pour le réfrochement et rapide de Sonia Simcha Bat Rachel. La question de Lior.
Comment se fait-il qu'avant le don de la Torah, nos patriarches et les juifs d'avant pratiquaient déjà les mitzvot, connaissaient déjà toute la Torah et très, de manière très précise, et Hachem a voulu quand même un don de la Torah pour divulguer la Torah
C'est-à-dire, s'ils connaissaient tout, qu'est-ce que ça a changé?
Pourquoi le don de la Torah?
Pourquoi le don de la Torah? Qu'est-ce qu'il y a en avant et après? Alors, pour répondre à la question, je vais expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est que les mitzvot. Il y a des choses assez bizarres. C'est écrit dans le traité Brachot, par exemple, que Dieu met les tefilines. C'est écrit aussi que Yaakov Avinu, lorsqu'il appelait le Shlach Kadosh, il écrit comme ça, il semblerait que c'est ça qu'il veut dire. Que lorsqu'il a pelé les branches face à ses troupeaux, il a fait ainsi la mitzvah de tefillin. Et forcément, il ne faut pas la faire telle que nous la faisons aujourd'hui, parce que les tefillin, ce sont donc des boîtes de cuir dans lesquelles il y a un texte qui raconte que c'est la sortie d'Égypte, principalement. Or, comment veux-tu que Yaakov Avinu, il a un texte qui raconte la sortie d'Égypte alors qu'il vivait 400 ans auparavant? Enfin, 210 ans auparavant. Alors, il faut expliquer comme ça. Qu'est-ce que c'est que la Torah? On ne sait pas ce que c'est tout à fait. Le Ramchal, il écrit que c'est la réalité la plus haute imaginable possible. Si on part depuis le haut, après Hachem, la réalité la plus haute de tout, que les anges, que les séraphins, que tout ce que tu veux, c'est la Torah. Cette Torah, on va appeler ça la pensée de Dieu, elle est complexe. C'est une réalité complexe. Elle contient 613, on appelle ça des lumières. Ce n'est pas la lumière du néon, ce n'est pas des ampoules, ce sont des réalités. Quand on dit lumière, on parle de réalité divine spirituelle lumineuse, ça veut dire dont émane de la lumière spirituelle. C'est écrit que Dieu étudie la Torah. De quoi il étudie la Torah? Ça veut dire qu'il y a une certaine action, il y a une interaction entre lui, béni soit-il, et ses 613 lumières. Maintenant, le mot mitzvah, comme je dis souvent, d'abord c'est Yudke Vavke, d'accord? C'est les quatre lignes de Dieu, je répète pour ceux qui ne savent pas encore cela, mitzvah mem tzadik vav hei, les deux dernières lettres du mot mitzvah, donc mitzvah c'est ordonnance. Ce sont les deux dernières lettres du nom de Dieu, Vav et puis He. Mem et Tzadik sont en Atbash. Atbash est un alphabet mystique. La première lettre, Aleph, correspond à la dernière Taf. Bet, deuxième, à l'avant-dernière Shin. Gimel, Resh, Dalet, Kouf, etc. Le mot mitzvah, c'est Yud et puis He, et puis Vav et puis He. Les deux premières lettres en Atbash et deux dernières en alphabet normal. Donc une mitzvah, c'est une réalité divine. Le mot mitzvah aussi signifie tzavta, signifie union. Tzavet en hébreu, équipe, d'accord? Union. Quand on fait le mitzvah, on s'unit à cette lumière. On s'unit à Hachem, à sa pensée, à cette lumière. Hachem a voulu nous donner un très grand cadeau, qui est pouvoir s'unir à ces lumières-là, qui sont une partie de lui-même, une émanation de lui, sa pensée. Donc s'unir à lui. Ces lumières, elles sont, comme Dieu l'est, éternel, immuable, mais néanmoins, leur matérialisation va changer en fonction du monde dans lequel elles se trouvent. L'exemple que je donne très souvent, c'est H2O. Deux molécules d'hydrogène pour une molécule d'oxygène. C'est pas forcément de l'eau. Entre 0 degré et 100 degrés Celsius, c'est de l'eau. C'est moins de 0 degré, c'est des glaçons. C'est du H2O. C'est l'H2O qu'on aura sous une forme, exactement, c'est exactement la même molécule, qu'on aura soit sous une forme de glaçon, soit sous une forme d'eau, soit une forme de vapeur. Tu prends un enfant, tu lui dis qu'est-ce que c'est? C'est de la glace, c'est de l'eau, c'est de la vapeur. Mais ce n'est pas la même chose. Un chimiste ou quelqu'un qui a fait au moins le CP C'est vrai que c'est la même chose, mais dans des configurations différentes. Idem la Torah. La Torah d'Hachem, ces 613 lumières, elles vont, pour se brancher à elles, il y aura certains moyens. Ces moyens vont différer en fonction du monde dans lequel tu te trouves. Hachem se branche avec ses lumières, il met les tefillin. Alors, c'est pas qu'il a retroussé son bras, il a pris une boîte de cuir, et hop, il a mis les tefillin. Hachem va faire une action quotidienne de, je ne sais pas exactement ce que c'est, entre interaction avec cette lumière qui s'appelle tefillin. Comment il a fait? J'ignore, mais pas avec son bras et une boîte de cuir, c'est clair. Yaakov Avinu l'a fait en pelant les branches. Nous le faisons en mettant une boîte de cuir, racontant, entre autres, la sortie d'Égypte. Il se peut que à l'époque messianique, ça va changer. En tout cas, pas quand il va dans le Mashiach tout de suite, mais rapidement, il y a une réalité qui va changer. Quand la réalité elle va changer, forcément, la façon de faire la mitzvah, elle va changer aussi. Vous avez souvent raconté, c'est décrit dans le Midrash, qu'à l'époque messianique, les fêtes vont disparaître. Amoadim Betelim sont annulées. À part Yom Kippour et Purim. Chanukah, c'est des Rabbanan. Je te parle des fêtes de Horaïta. Impossible. Pourquoi? La Torah est immuable. Elle est infinie et éternelle. Or, dans la Torah, parmi 613 mitzvot, tu as la mitzvah de Pessah, tu as la mitzvah de Shavuot, de Rosh Hashanah, de Rosh Chodesh, de Sukkot, de Shmini Atzeret. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce qu'on peut enlever une mitzvah de la Torah? Impossible. Impossible. Celui, s'il vient un prophète, comme il y en a un qui est venu il y a 2000 ans, qui a fini sur une croix, et qui dit que ça, ok, on met de côté, ben, on met dehors. Si Mashiach vient et dit, il y a une Torah, il y a une mitzvah maintenant qu'on annule, ou qu'on rajoute, peu importe, tu changes la Torah, tu dégages tout de suite, qui que tu sois, qui que tu sois. De façon ponctuelle, un prophète peut annuler une mitzvah. Sont ponctuels. Par exemple, la prophétesse Esther, le soir de Pessah, la veille, elle a dit, pas de Pessah ce soir, on jeûne. Elle a dit la mitzvah de la Torah de manger de la matzah. Une mitzvah d'assez d'Horaïta. Ce mitzvah qu'on fait encore en mangeant, d'accord, d'Horaïta. Elle a annulé ça. Elle a dit, je préfère annuler, comme ça tout le monde jeûne, au moins le peuple d'Israël va rester. Parce que si on ne jeûne pas, on ne fait pas de tchouva, donc peut-être on aura mangé de la matzah, mais il n'y aura plus de peuple d'Israël. Le roi Salomon, quand il a fait l'inauguration du temple de Jérusalem, il a fait ça quand? Il a fait ça, il a commencé, je vous dis exactement laquelle, le 7 Tishré. Et il y avait 7 jours de festivité. 7 jours, tout le peuple vient à Jérusalem, et on mange, et on fait des méchouis, et la belle vie, etc. Et le quatrième jour de ces 7 jours, c'était Yom Kippour. Et il dit, ben on continue. Et Yom Kippour, Kol Nidre, on mange du méchoui. Quand on fait une chose pareille, de façon ponctuelle. Inauguration du temple de Jérusalem, c'est la fête. Yohan Navi, il fait un duel de sacrifices avec les 450 prêtres du Baal. Alors, ils venaient tous au Carmel, on fait deux temples, deux hôtels, celui pour lequel le feu tombera du ciel, c'est lui qui a raison. Il a interdit la Torah, c'est un histoire carette. De faire un hôtel hors du temple. On m'a fait une chose pareille, de façon ponctuelle. Donc si un prophète vient de façon ponctuelle me dire, maintenant, on change de mitzvah, de façon ponctuelle, on écoute. C'est un vrai prophète, pas un gulu. S'il dit, ok, dès maintenant ça, c'est plus à la mode, on arrête. Ça n'existe plus. Qui qu'il soit, le Mashiach à la puissance 1000, excusez-moi, un coup de pied dans le postérieur. Bye! La Torah ne peut pas changer. Elle a 613 lumières divines. Comme Dieu ne peut pas changer, ces 613 ne changeront jamais. Qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qui peut changer? La façon d'établir une interaction, la façon d'accéder à cette lumière-là. Comme je dis, les tefillines.
Justement, les tefillines, quand on les met, quel canal de lumière
on crée le canal lumière tefillines.
Et quel est l'impact de ce canal lumière?
Un canal fantastique. Tu te branches avec Hachem. Canal énorme. Il y a une chose qui sont assez simples.
Je vais être un petit peu cru, hein, mais qu'est-ce que ça change HM que je vais être les filles ou que je vais
mettre là? Bon, c'est une question intéressante, mais on est un peu hors sujet. Je reviens encore sur ce sujet. Après, on pourra peut-être, si on a le temps, toucher cette question-là.
De façon ponctuelle, mais il faut une bonne raison.
Mais c'est une bonne raison. Un prophète, c'est pas quelqu'un qui dit allez aujourd'hui, on s'amuse.
On ne gêne pas. La cache-route, elle va changer quand.
Alors, j'entends expliquer maintenant toutes ces choses-là. Hein?
Il y en a qui ont fait parler tous les misères, ils ont essayé de les miser.
Ouais, avec David.
Je me compris.
Ils avaient, comme ils arrivaient, ils ont dit oh, c'était trop dur, alors David, il leur a dit. Il avait enlevé, par exemple, il leur a dit voilà, vous faites que 10 mitzvot. Il a descendu à 5 après.
Oui, c'est pas qu'il a enlevé les mitzvot. Il a dit quelle est la base essentielle de toute la Torah. Le tzadik vivra avec la foi. C'est la foi. Mais je n'ai pas dit, t'as la foi, tout va très bien. Jamais de la vie. Ça n'existe pas un truc pareil. Je reprends. Le premier homme, Dieu lui dit, dans le paradis, lui dit, voici maintenant tous les arbres du jardin d'Éden. Fais attention, le Ofda ou le Shomra. De le servir, ce jardin, et de le garder. Chazal, on dit, nous sages de Rabbani, on dit, le servir, c'est les mitzvot positives, c'est une action positive, servir. Garder, se garder d'eux, c'est les mitzvot négatives. Donc, dans le paradis, premier homme, pratiquer la Torah. 613 mitzvot, dans le paradis. Mais ce n'est pas la même chose que nous. La façon d'agir était différente. Ça actionnait la même lumière. Mais la méthode d'actionnement de cette lumière était différente. Lorsque le premier homme a péché, il est arrivé sur terre, il y a eu encore une autre façon de faire. Maintenant, l'humanité a reçu cet enseignement qui était la Torah. Le premier homme a reçu ça de Dieu, l'a transmise à ses enfants, contre ses enfants, etc., etc. L'humanité connaissait la Torah. Mais, à part certaines lois qu'on appelle loi Noachide, cette loi qui concerne les Noachides, toute la descendance de Noé, donc l'humanité, les autres mitzvot 613, le 606 qui restait, d'accord, c'était des mitzvot qui étaient facultatives. C'était des moyens, des techniques de rapprochement de Dieu. Par exemple, on ne peut pas se marier avec deux sœurs, c'est interdit. Lorsque Lavan, qui savait que Yaakov devait se marier avec Rachel pour que le peuple d'Israël puisse émerger, il a flanqué Léa à la place. Se disant, s'il a Léa, c'est fini, il ne pourra plus avoir Rachel. C'était une action extrêmement sournoise. Yaakov dit, c'est vrai, mais un, la Torah n'est pas obligatoire, elle n'est que conseillée pour nous. Deux, on est à l'étranger, hors d'Israël, donc c'est encore plus facile, parce que le vrai sens de la Torah, c'est en terre d'Israël. Il faut savoir que le vrai sens des mitzvot, il est en terre d'Israël. Un péché en terre d'Israël est beaucoup plus grave qu'à l'étranger. Une mitzvah en Israël a beaucoup plus d'impact qu'à l'étranger. Ça, c'est évident. Pour deux raisons, il s'est marié quand même avec Rachel aussi. Il s'est marié avec deux femmes. Ce que la Torah interdit, ils sont carrettes. Donc vu qu'il y avait une nécessité, parce que sans ça, ça n'avait pas le peuple d'Israël, là, il a, entre guillemets, transgressé, parce que ce n'était pas encore obligatoire, c'est qu'une technique de rapprochement d'Hachem. Une fois que le peuple d'Israël est prêt, Dieu dit, ok, maintenant je vous donne à vous cette mission de faire 613 mitzvot, mais c'est obligatoire. Et dès que ça devient obligatoire, ça deviendra aussi obligatoire dans le sens que ça a été donné. C'est-à-dire que beaucoup de mitzvot, on les fait maintenant en souvenir de la sortie d'Égypte. Aucun être humain, comme j'ai dit auparavant, pouvait faire cela avant la sortie d'Égypte. Vous ne pouvez pas mettre les tefilines, ni le kiddush, beaucoup de choses. Pourquoi le rendre obligatoire? Si ce n'est pas obligatoire, qui va faire le job des 613 mitzvot quand on fait ce...
Mais on ne dit pas qu'ils les faisaient déjà, les patriarches?
J'ai dit, ils les faisaient déjà, mais en tant que technique de rapprochement facultative. Il y avait un impact.
Ah bon, lequel?
Ouais, un impact. Moindre. Vu que ce n'est pas obligatoire, c'est moindre. Quelqu'un qui fait une mitzvah non obligatoire, il fait un impact, mais moindre.
Pourquoi ça devrait être plus?
Non, parce que du moment que tu as une obligation, dans le ciel, tu as déjà un chemin qui est tracé. Et vu qu'il y a un chemin qui est tracé aussi et qu'il y a une obligation, donc Dieu crée aussi des résistances. Quand on fait un vaccin, on crée des anticorps. D'accord? Et c'est rare. Alors on a vu quand Jérémy Bérémy est venu ici, il a parlé un peu des techniques des grosses boîtes d'Internet pour amener plus de clients. Quand ils te disent tu t'inscris, tu ne veux pas sortir, très peu de clients s'inscrivent. Quand tu dis tu t'inscris, mais tu peux sortir quand tu veux, personne ne sort. Très rare. L'obligation, quand je t'oblige, c'est très dur. quand tu vas ton propre gré, c'est beaucoup plus facile. Donc Hachem, pour les raisons qu'on va évoquer, a obligé de faire la Torah. Dès lors, c'est beaucoup plus dur de la pratiquer. Celui qui l'a fait a beaucoup plus de mérite. Maintenant, pourquoi Hachem, il a obligé? Parce qu'il y a une raison pour laquelle le monde était créé. Hachem veut que l'humanité puisse jouir d'Hachem. Pour jouer d'Hachem, il faut actionner ces 613 lumières. Il a fait alors, lui, il a donné cette Torah à la... Je vais après revenir sur les fêtes, rappelez-moi le truc des fêtes que j'explique à l'époque, mais c'est nous comment ça aura lieu. Il a voulu que l'humanité arrive à pratiquer ces 613 lois. Comme je vous l'ai dit auparavant, il a donné ça au premier homme. Et comme est-ce que le Ramchal, dans Der HaShem, vous l'avez fait, vous allez le faire avec le Rav Kadosh, il a donné 2000 ans à l'humanité pour accéder au niveau requis, qui était celui pour arriver à réparer le péché originel. Lorsque le péché originel, il y a eu une très grande dépression de l'humanité. 2000 ans, je vous laisse maintenant essayer de remonter au niveau antécédent du péché originel. Toute l'humanité avait cette obligation, en tout cas de faire les 7 lois noachides, et ils ont fait le contraire, ils sont allés d'échec en échec. Déjà, la génération de Enoch, petit-fils du premier homme, commence à pratiquer la voie d'Azara, l'idolâtrie.
Il y avait
la Torah, des 613 lois en tant que technique facultative, il y avait obligation des 7 lois noachides, qui sont les 3 lois avodah zara, donc interdiction de faire l'idolâtrie, assassinat, adultère. Quand on dit adultère, c'est 6 lois, 6 interdictions. Interdiction avec une femme mariée, avec sa mère, avec sa fille, avec sa... J'ai oublié, il y en a 6. Hommes, animaux et encore une, d'accord? Un moment, je finis. Ensuite, il y a interdiction, donc j'ai assassiné avodah zara, interdiction sexuelle, blasphémé, voler, manger du fruit de vivisection, un membre coupé d'un animal qui est vivant, et obligation de mettre des tribunaux. Ça, c'est cette loi noachide, obligatoire. Le reste, conseillé, mais pas obligatoire. Pendant 2000 ans, l'humanité, au lieu de faire ce job-là, va aller d'échec en échec. Comme j'ai dit, la génération de Enoch, après celle du déluge, après la tour de Babel, après Sodome et Gomorre. Lors de Sodome ou Gomorre, Abraham a 48 ans. Non. Lors de la tour de Babel, Abraham a 48 ans. Lors de Sodome ou Gomorre, il a 99 ans. Et Dieu décide, ok, vu que ça ne marche pas avec l'humanité, je prends une unité d'élite qui sera le peuple d'Israël, eux vont faire ce job-là. Et chacun des êtres humains qui veut se joindre au peuple d'Israël pour faire ce job, Baruch haba, bienvenue. On va vérifier simplement s'il est vraiment sincère. Et s'il prend cette façon sincère de pratiquer les 613 lois de la Torah, on le reçoit, on appelle ça un converti. Et il reçoit une échama spéciale des commandos de l'humanité pour aller faire cette mission spéciale de 613 à la place des 7. Donc, il y a une nécessité qu'il y ait quelqu'un qui fasse ce job-là, le peuple d'Israël. Quand Machiav reviendra, au début tout sera exactement la même chose, à la nuance que la halakha va un peu changer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a les coutumes des Sfaradim, Ashkenazim, etc., Mashiach qui nous donnera une halakha claire pour tous. Ni Sfara, ni Ménite, ni Italien, ni rien, ni Patah Eliaou, tout le monde fera la même prière, le même Noussar, la même prononciation, tout le monde. Rabbi Sonar Bachour, il a dit, à mon avis, comme ça, il a dit, ce sera comme le Rambam, comme Maïmoni. C'est pas clair, c'est mon avis, comme ça, il pense. Puis, l'humanité va commencer à monter de niveau. Monter. Comme j'expliquais déjà souvent, je vais répéter, aujourd'hui, on a 3 catégories de réalité. Dans la réalité, il y a 3 catégories. Il y a ce qui est saint, sacré, Sefer Torah, Tfilin, Shabbat, c'est Kadosh, Tachol, Chol, c'est profane, les jours, Chol, manger, ce que tu as envie de manger, quand viendra le Mashiach, il y aura les sacrifices, on mangera des saintetés, des sacrifices, c'est fait partie de la sainteté, ce qui est sacré. Quand tu manges aujourd'hui, tu manges du Chol. Et tu as la partie qui est Touma, qui est impur. Les animaux impurs, les relations interdites, tout ce qui est interdit, d'accord, c'est impur. Quand Mashiach vient, l'impur est éjecté. En quelques, je sais pas combien de temps, mais très rapidement, il n'y aura plus d'impureté dans le monde. Resteront 2 catégories, le Chol et le Kodesh. Le but du Mashiach, c'est de faire monter toute l'humanité à complètement Kadosh. Il a pour cela 40 ans. Le Mashiach va enseigner l'humanité entière, à se sanctifier pour arriver à un niveau où toute la réalité deviendra complètement kadosh. Dès lors, forcément, la pratique des mitzvot va changer. Elles vont rester, mais elles vont changer dans la pratique. C'est-à-dire que du moment où je n'ai plus de chol, alors, tous les jours c'est quoi? Ça doit être Shabbat, mais Shabbat une fois par semaine. On aura la lumière de la fête de Pessah tous les dimanches. Tous les dimanches, ce sera Pessah. Tous les lundis, ce sera Rosh Hashanah. Tous les mardis, ce sera Shavuot. Tous les mercredis, ce sera Rosh Chodesh. Tous les jeudis, ce sera Sukkot. Tous les vendredis, ce sera Shmini Atzeret. Dans cet ordre-là, ça correspond aux sphères. Qui va travailler? C'est fini, oublie mon cher ami, mais vous rêvez, mais dans quelques semaines, c'est fini. Ni études, ni travail, ni euros, ni dollars. Il y aura un seul truc, il y aura combien de crainte de Dieu, combien d'amour de Dieu, combien de branchements avec Hachem, combien de Torah t'as eu, c'est tout ce qu'il y aura.
Pendant 40 ans, il n'y a pas
de problème. Hachem n'a pas de problème. Comment on a fait 40 ans dans le désert, et la manne, et l'eau, et tout ça? C'est un problème pour Hachem, franchement.
Comment? La manne.
Habibi, la manne. La manne, tu goûtais, tu voulais un méchoui, t'as méchoui. Tu veux une tarte aux pommes, t'as allé une forêt noire.
Ok, ce chiffre 40 ans.
Et
là, vous venez de dire encore 40. À chaque fois, on retrouve 40, ça vient d'où? Quoi 40 à chaque fois?
J'ignore.
C'est une préparation, c'est
quoi? J'ignore, mais on sait que 26 correspond à la valeur numérique de Dieu. Dans l'être même qui correspond à 40, comment on l'écrit? On écrit un kaf lié à un vav. Kaf, c'est 20, vav, c'est 6, 26. Donc il y a un développement de 26, c'est 40.
Et pourquoi vous avez dit que c'était facultatif alors avant? Pourquoi ça l'était seulement?
Parce qu'Hachem savait que l'humanité ne pourrait pas tenir. Je vous fais maintenant 7. Tenez au moins les 7. Et ça, ils n'ont pas tenu. Après, s'ils avaient tenu les 7, alors ils l'ont pris, une unité, pour arriver à une unité plus grande. Pas que le peuple d'Israël aurait été la moitié de l'humanité, je ne sais pas, tous ceux qui ont réussi à faire les 7. Alors vous aurez maintenant, allez, je vous donne maintenant une grande mission, vous allez faire les 613.
La
manne pour le cacheur des Pessah.
Dimanche,
je voudrais
un peu
de. Mais mon cher, mais surtout toi, tu devras travailler toute la nuit du samedi soir pour nettoyer toute la maison du Hametz, Bezrat Hashem. Tu poses des questions pareilles. Alors, comment ça se passait à l'époque? Je ne sais pas, mais il se peut que la réalité de Hametz, peut-être qu'elle va changer, ou il n'y aura plus de Hametz. J'ignore. On parle d'une autre réalité. Comprends, c'est écrit qu'à l'époque messianique, quelqu'un vient manger, vient cueillir une figue Shabbat, la figue lui crie Shabbat. Ouais. Alors, les petits-enfants, ils comprennent que les figues auront des bouches, d'accord? Ah, maman, regarde, Shabbat, Shabbat, elle crie, d'accord? Ça, c'est enfantin. Ça veut dire que dans la réalité, tu verras Shabbat. Aujourd'hui, on ne voit pas Shabbat.
Alors, plus de figues, vous avez dit, il n'y aurait que de la manne.
Non, lui, il a dit, comment on va faire pour manger? Alors, je te réponds, comment faire pour manger? T'entends, Marlon? C'est écrit dans la Gemara, dans Shabbat, que les arbres vont faire des gâteaux, les arbres vont faire des habits, toute la réalité, elle va changer. Les femmes vont faire des enfants tous les jours.
Que pour les jours, à la guerre.
Tout le monde. Et franchement, c'est difficile à comprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, on est arrivé au niveau technologique, on peut faire tellement de choses extraordinaires. Franchement, si Hachem donne l'idée à 2-3 scientifiques encore de faire un petit machin, on fait ce qu'on veut, c'est terminé. Ça, c'est sans le miracle qu'Hachem fera.
Les enfants tous les jours, comment ils pourront vivre sur Terre?
Don't worry.
Déjà, on est surpeuplé.
T'en fais pas. Avec une question très importante de Eliaou. Sur la nourriture, la cache-route, n'est-ce pas?
Ouais, je pense.
Alors, vu que la partie qui est négative, elle va disparaître, alors c'est même écrit que le chazir, le cochon, ça vient de la racine roser, reviendra, il reviendra être cachère. Et il sera impossible qu'il y ait des animaux qui soient non cachers, vu que tous, il n'y aura plus l'impureté, il n'y aura que de la pureté.
Même la viande et le lait.
Hein? Il semblerait que tout, enfin des choses, il n'y aura pas de possibilité de choses, il n'y aura pas d'impureté dans le monde. Il n'y aura pas, ça n'existera plus. Alors forcément, il faut dire qu'il y aura une réalité de ces 613 lumières qui va changer. Ce que je suis en train d'expliquer. Du moment.
Techniquement, il enlèvera une mitzvah, du coup.
La lumière va rester. Tu auras cette mitzvah autrement. Comme Tfilin, on les met aujourd'hui en rappelant la sortie d'Égypte, et le premier homme faisait autrement, nous aussi on fera autrement, certaines mitzvot qu'on ne pourra plus pratiquer de cette façon-là. Mais les lumières vont toujours rester. Ok, tu veux encore une question? Oui.
Il y a des mitzvot qu'on ne peut pas faire de nos jours.
C'est juste.
Donc on n'a pas les 613 lumières.
C'est vrai. mais par l'étude de la Torah, on peut les faire. C'est pour cela que quelqu'un pose la question, comment se fait-il qu'il n'y a pas une Gemara de Taharot? Taharot, toutes les lois pureté et d'impureté. C'est, donc, il y a 6 ordres de la Mishnah. De Zraïm, on a Brachot. Moed, on a plusieurs Masertot. Nesikin, Nashim. Mais après Taharot, on n'a pas. Taharot, c'est le dernier. Le dernier ordre de la Mishnah. Il n'y a aucun traité de la Mishnah de Taharot. Aucun traité de Gemara sur les Mishnahot de Taharot. Réponse, ce n'est pas actuel. Taharot, c'est que les lois pureté d'impureté sont tous impures aujourd'hui, donc ça ne rime à rien. Avant, il y avait.
On étudie.
Bien sûr qu'il y avait, mais la Gemara a été écrite, le Talmud de Babylone a été écrit en 450 et celui de Jérusalem en 250. On était dans tous les cas au moins 2 siècles, voire 4 siècles après la destruction du Temple. Fini, il n'y avait absolument plus rien. Donc ça n'a rien d'écrire une Gemara là-dessus.
On étudie les lois du Gemara.
Alors il y a, dans la Gemara, il y a inséré pas mal de textes qui parlent de Tahara. Beaucoup, d'accord. Mais il n'y a pas de traité de. On pose la question, si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on a des traités sur Zvachim et Menachot? C'est 2 traités très gros. Un Zvachim, tous les sacrifices, Menachot, tous les sacrifices de Minha, tous les sacrifices animaux, tous les sacrifices végétaux. Pourquoi on fait ça? C'est plus actuel. Réponse qu'a donné le Rosh Yeshiva de Ponovitch il y a quelques années. Le Rav Michael Lefkovitch, il a écrit comme ça, il a écrit que lorsque Avraham Avinu a reçu la promesse que le peuple d'Israël va être un peuple éternel et aura droit à la terre d'Israël. Alors, Dieu lui a dit, Abraham lui a dit, par quel mérite ils vont survivre? Il y aura des péchés. Par quel mérite ils vont survivre? Dieu lui a dit, par le mérite des sacrifices. Mon sacrifice, les sacrifices vont expier leurs péchés. Abraham est okay, ça c'est bon quand ils seront en terre d'Israël, mais quand ils seront en exil, comment ils vont faire? Dieu dit, ils vont étudier les lois des sacrifices, et moi je considère que cette étude est comme s'ils font le sacrifice lui-même. Ce qu'on fait aujourd'hui, tu remarqueras que, par exemple, Moussaf de Rosh Chodesh, Moussaf de Shabbat, ou de Rosh Chodesh, peu importe. C'est une prière supplémentaire que tu fais par rapport à quoi? Par rapport au sacrifice de Moussaf qui avait Rosh Chodesh et Shabbat au temple. Un sacrifice supplémentaire, Moussaf c'est une fille supplémentaire. Qu'est-ce qu'on lit dans le texte? Tu lis l'ordonnance dans la Torah de faire ce sacrifice. Voilà, Shabbat, Beshabbato, Shne Kvasim, Bene Shadan Temimim, tu lis ça. La lecture du texte, il y a un verset de Amos qui dit « Oneshama farem sateno » « On payera nos sacrifices par nos lèvres ». Le fait qu'on étudie, qu'on lise dans la Torah, qu'on étudie toutes les lois relatives aux sacrifices, c'est comme si on fait sacrifice lui-même. Donc, c'est pour répondre à la question, bien qu'on ne pratique pas les mitzvot, leur étude, dans cette période où on ne peut pas les faire, actionne ces lumières-là comme si on a fait l'action.
Pourquoi, comme dès qu'ils ont reçu la Torah, il y avait encore
les
Israël? Pourquoi il n'a pas tout enlevé?
C'est tout le but.
Non, mais s'ils ont la Torah, c'est-à-dire directement le Mashiach.
Si Moshe Rabbeinu rentrait en terre d'Israël, il était le Mashiach. Il construisait le temple, ce temple aurait été éternel, il n'y a plus de mal. Pourquoi pas quoi?
On a un travail.
Yetzer Hara s'est battu. Qu'est-ce qu'il a fait, Yetzer Hara? Il a envoyé le veau d'or, le Korah, l'explorateur, tout ce que tu veux. Et la dernière âme qu'il a envoyée, c'est quoi? Le dernier système D du Yetzer Hara pour pas qu'on arrive en terre d'Israël. La dernière des armes, c'était laquelle? Les filles. Une armée de filles qui vient maintenant en tenue légère et des tambourins, des violons et en dansant. Chassé Shalom. Et tous les grands garçons, tous les beaux garçons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tomber dans le panneau. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, j'extermine tout le monde. Les filles? Jamais. T'entends? Pinchas a fait son acte de bravo, hein? Pourquoi? Parce que quand tu touches l'organe sexuel, tu touches la base de tout. Et quand la base est touchée, tout le bâtiment s'écroule. Parce que les SRI se basent sur ça plus que tout. Avis aux non-amateurs, messieurs, faites attention. Hein? Chaque péché fait vers l'organe sexuel, qu'il soit masculin ou féminin, un acte sexuel interdit ne se fait pas avec l'oreille, se fait avec l'organe sexuel. D'accord? L'organe sexuel, lorsqu'il fait un acte interdit, tu touches sa réalité spirituelle. C'est la racine spirituelle, ça s'appelle la sphère du yesod, de la base. Et quand on touche la base, qu'est-ce qui se passe avec tout le bâtiment? Il s'écroule. C'est pour ça qu'après, les factures sont terribles.
Vous avez dit que
Timoshé
serait en train d'entrer.
Le
Mashiach. Est-ce que le Mashiach, il est plus petit que Moshé? Qui arrive bientôt?
Le Mashiach qui arrive, c'est Moshé. Comme il est écrit, dans Kohelet, Mashéhaya Husheye. Ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y aura. Prenez les premières lettres de Mashéhaya Husheye, c'est les lettres Moshé.
Il aura le même niveau que lui, c'est bien?
Il sera plus haut même que Moshé.
Hein?
Bien que, laissez-moi finir, après tu poseras la question. Bien que, le Roi Hamakadosh, il explique ça. Il explique comme ça. Il dit que bien que le Mashiach doit être un descendant de David, mais il dit, mais Moshé, il inclut en lui toutes les branches, toutes les 12 tribus. Il inclut tout le monde. Donc il y a une partie qui s'est développée, qui s'est dévoilée de cette âme qui est Moshé Rabbeinu dans la prophétie. Mais il y a d'autres parties, de, par exemple la Malchoute, la royauté, d'autres parties de Moshé Rabbeinu qui vont se dévoiler. Et lui, quand il vient, c'est lui. C'est Moshé Rabbeinu qui revient en tant que descendant du roi David.
C'est-à-dire qu'il est dans notre génération.
Bien sûr qu'il est là.
Donc Moshé, c'est
d'accord. Peut-être qu'il est ici dans la salle. C'est sûrement pas moi. Baruch HaShem. Pourquoi? Parce que il doit être... Parce que c'est pas un blagueur, voilà, c'est tout. C'est quelqu'un de très très grand. Non, c'est pas un blagueur, je veux dire, ce serait une blague, quoi.
Il est informé, non?
Hein? En plus, il le sait. Il le sait, à un certain moment, il le sait.
Il faut la louper, la chaman de ma chère.
Hein?
Il faut pas la louper, cette chaman.
C'était quoi, la louper?
Je sais pas, passer devant lui en disant, lui, c'est quelqu'un de normal.
Bien sûr, mais il est caché. Mais il est caché. Le Rambam dit c'est un homme timon, c'est un homme que personne ne fait attention à lui. Bien sûr, il se cache, bien sûr. Une fois le Hafez Raïm, il a envoyé un messager à un type qui était un type comme ça, un pauvre, rien du tout, qui s'occupait dans une usine. C'est lui qui s'occupait du feu comme ça. Hafez Raïm, il l'a envoyé comme ça, des centaines de kilomètres, avec un petit billet comme ça, super secret, qu'on ne sait pas ce qu'il y avait dedans. Très bien, il a pris, il l'a jeté au feu.
Ah, ça veut dire
Il a dit, vas-y, dévoile-toi. Maman, t'es venu, lui dit, ah ben, je sais bien que tu veux que je me dise, je ne peux pas pour le moment, c'est pas encore le moment. Je vais t'acheter que ça sera cette année. Baruch Adonai, l'homme va amener.